Aujourd'hui, on parle de Robert Piguet. Pourquoi ? Ben justement, c'est ce monsieur qui est né dans une famille protestante, banquier, voilà, à Yverdon. Imaginez Yverdon-les-Bains, 1900, 1895, 98. Un monsieur naît, il a envie de mode, de couture, il est excentrique ou original, ou en tout cas, il a du goût, il dessine. Même si son père lui apprend un métier, même s'il va à la banque, même s'il va voir les étoiles, parce qu'une construction dans la maison, on peut voir le ciel. Enfin, bref, à un moment donné, il va s'échapper. C'est aussi une force quand même énorme de partir à Paris. Alors oui, quand vous êtes peut-être dans un milieu un peu plus nanti, c'est peut-être plus simple d'avoir un studio pour habiter ou des gens qu'on connaît ou un billet de train. Je ne sais pas comment on va à Paris en 1910-15, mais ça ne doit pas être tout simple non plus. C'est une vraie histoire, c'est une vraie aventure. On ne se téléphone pas tous les jours. Voilà. Robert Piguet arrive dans la maison de Paul Poiret. Il sera engagé là. Et comme Robert Piguet va bien travailler sa matière, il fera des trucs très fluides mais très droits, des lignes très très droites. On ne remarque pas trop au départ le côté effet, comme le feront peut-être Jeanne Lanvin ou plus tard Dior avec des volumes, avec des fleurs. Il a des lignes très pures, très chic. C'est aussi beaucoup plus compliqué, comme Madame Gray le fera plus tard, d'avoir des lignes droites et puis qu'il y ait de l'effet. Robert Piguet, il aura jusqu'à 300-350 employés. Donc ce monsieur d'Yverdon a, en bas des Champs-Élysées, près du rond-point, un studio avec des miroirs gigantesques, du velours rouge, des centaines de chaises posées là. Et le tout Paris vient voir, personne ne le sait. C'est un immense créateur. En même temps, il y a une petite nana qui fait des chapeaux, c'est Chanel, elle est un peu dans le giron là autour. Il y a une autre nana, c'est Jeanne Lanvin, elle est un peu connue. Et puis, Robert Piguet, il va engager des gens dans son atelier. Il va engager un petit gars qui vient de Normandie, c'est Christian Dior. Et Christian Dior, à un moment donné, il en aura marre d'être dans cet atelier, il a son envie à lui. Et dans les années 30, il part et puis à un moment donné, il va ouvrir sa maison. Et c'est le grand Dior qu'on connaît, qui est mort très tôt, à 50 et quelques, mais qui a inventé tout ce système avec le muguet, avec les fleurs, qui lui, à l'inverse de son mentor, va créer des robes très fortes, son fameux tailleur bar serré avec des hanches marquées, parce qu'on est juste après la guerre, on a à nouveau du tissu et on l'utilise. Et ce monsieur Dior, pour ne pas finir l'histoire là, il engage des gens. Puis là, un petit gars qui s'appelle Saint-Laurent, qui va être son premier d'atelier, qui va finalement quitter aussi Dior, faire l'armée, mais pas la faire, être déprimé, avoir un copain, un berger, puis ouvrir sa maison. Donc cette suite-là, elle est toute logique. Poiret qui engage Piguet, qui engage Dior, qui engage Saint-Laurent. Donc c'est quand même 100 ans de mode ou presque, avec des histoires qui vivent, avec des millions de gens qui gagnent encore la vie avec ça, qui bossent dans les magasins, qui sont fiers de le porter, mais on fait des cintres, on fait du packaging, on fait des magasins de Dior, de Saint-Laurent, encore maintenant. Il y a énormément de métiers autour qu'on sous-estime, à part la mode qu'ils ont créée, à part leurs propres produits. Donc Robert Piguet, qui vient encore une fois Yverdon, crée cette maison gigantesque qui se développe énormément. Il est très connu, reconnu. Et à un moment donné, lui, c'est le nom de ses deux chiens qui va donner à deux parfums géniaux qui s'appellent Bandit et Fracas, qu'on trouve toujours d'ailleurs.